On sait que la maladie d'Alzheimer, vous l'avez dit, est la deuxième préoccupation des Français après le cancer. Mais il y a quand même de bonnes nouvelles. Hein. On peut agir pour ralentir l'arrivée de la maladie. Et c'est ce que va nous dire Olivier Deladoucette, psychiatre, gériatre et président fondateur de la Fondation Recherche Alzheimer.
Oui, alors... Je vais vous apporter, je crois, quelques bonnes nouvelles. Alors, on commence d'abord par les mauvaises, mais là, on ne va pas revenir dessus. Vous avez vu, j'ai eu déjà l'occasion de vous dire quelques mots là-dessus. Diapo suivante. Et là, on arrive aux bonnes nouvelles, déjà. Ce que l'on sait aujourd'hui, et c'est important de l'entendre, c'est que à H constant, on a moins de risques de développer une maladie d'Alzheimer aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que aujourd'hui, si vous avez 80 ans, eh bien votre risque de développer une maladie d'Alzheimer est moins élevé que celui que courait votre propre père au même âge. L'autre bonne nouvelle, c'est que si on arrive à retarder seulement de 5 ans l'apparition des troubles, on divise par 2 le nombre de patients. Pourquoi ? Parce que c'est une maladie de fin de vie et qu'on a l'occasion, à ce moment-là, on a la possibilité de mourir d'autre chose. Voilà. Mais on peut aussi mourir plus tard. Donc, on ne va pas mourir tout de suite, on va rester en forme. Et on décédera avant que la maladie ne se déclare. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, je vais vous expliquer maintenant pourquoi ces bonnes nouvelles. Diapo suivante. D'abord, ce qui est important, c'est de comprendre un peu qu'est-ce que nous savons aujourd'hui sur la maladie d'Alzheimer. Nous savons qu'elle est sous-tendue par des gènes, mais que heureusement, ces gènes sont prépondérants que dans un nombre très faible de cas. Les formes familiales dites autosomiques dominantes, c'est-à-dire où à chaque génération, vous avez à peu près la moitié des individus qui vont déclencher la maladie d'Alzheimer, en général assez tôt, eh bien ces formes-là sont très rares. Vous voyez, 1%, et puis, bon, on va dire 5% quand il y a des anomalies génétiques un petit peu différentes, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Le reste, c'est-à-dire 95 à 99% des cas, ce sont des formes dites sporadiques, c'est-à-dire où les causes de ces troubles, de cette maladie, ne sont pas encore totalement définies. On ne sait pas pourquoi. Dans une même fratrie, vous avez 5 individus qui ont entre 60 et 80 ans, il y en a un ou deux qui vont déclencher la maladie. Aujourd'hui, on ne peut pas se l'expliquer tout à fait correctement. On a des pistes, mais on n'a pas d'idée très précise. Diapo suivante. Alors, pour comprendre la prévention, j'aimerais vous soumettre ce petit schéma qui vous paraît peut-être un peu abstrait, mais vous allez voir, c'est assez simple. En haut, vous avez deux dessins de cerveau. Un qui est normal, vous voyez, celui qui est à droite, et puis un qui est anormal, c'est celui d'un patient atteint d'une maladie d'Alzheimer, à un stade déjà relativement avancé. Et on voit que clairement, le cerveau normal est beaucoup plus charnu. Vous voyez que les fameux hippocampes dont on vous a parlé, vous les voyez, ils sont dessinés là en bas. Eh bien, dans le cas de la maladie d'Alzheimer, ils ont vraiment rétréci. C'est la raison pour laquelle on a ces troubles de la mémoire. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, avec la maladie d'Alzheimer, on a une atrophie du cortex. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons, ça a été défini tout à l'heure, on a parlé de réserve cognitive. Il y a d'abord un premier terme qu'il faut entendre, c'est la réserve cérébrale. La réserve cérébrale, on va dire, c'est l'état général du cerveau. Plus cette réserve est importante, plus votre cerveau est en bon état, plus le cortex est préservé. Cette réserve cérébrale, elle va définir la réserve cognitive. c'est-à-dire au fond la réserve d'intelligence. La réserve cognitive, elle est sous-tendue par le nombre de connexions que les milliards de neurones que notre cerveau contient vont créer entre eux. On a à peu près, estime-t-on, 100 milliards de neurones entre les deux oreilles. Le cerveau, c'est à peu près 1,3 kg, 1,5 kg, constitué de 70% de lipides. Il est plus léger chez les femmes que chez les hommes, ce qui ne veut pas dire que les femmes soient moins intelligentes, bien au contraire. Elles ont probablement, justement, un cerveau avec des connexions plus denses. Tous ces neurones sont reliés entre eux par des synapses. Et en permanence, en fonction de la stimulation, eh bien, notre cerveau va créer et va détruire ces fameuses synapses. Plus il y a de synapses, chaque neurone est relié à peu près par 100 à 150 000 synapses avec les neurones voisins. Vous imaginez la densité du réseau. Eh bien, plus le cerveau est en bon état, plus le cerveau est stimulé, plus la réserve cérébrale et la réserve cognitive est élevée. Donc là, vous avez sur le cerveau de gauche, de droite.
Oui, c'est ça, de gauche, oui.
Bon, alors, de gauche. Plus vous avez sur le cerveau de gauche, celui-là, vous voyez, il a une réserve cognitive il est charnu, il a une réserve cognitive qui est importante. Et celui de droite est là, c'est la maladie d'Alzheimer. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. C'est que cette réserve cognitive, on la fait et on la défait tout au long de sa vie, en fonction de la manière dont on vit. Deuxième chose qu'il est important d'entendre, c'est que la maladie d'Alzheimer évolue sans signe clinique pendant 10, 15, voire 20 ans. Pendant 10, 15, 20 ans, on va accumuler dans notre cerveau et au niveau du cortex ces fameuses protéines qui ont été décrites précédemment, la protéine bêta-amyloïde et puis par la suite la protéine tau. Mais on va accumuler ça tout doucement et on ne va pas s'en rendre compte. Pendant tout ce temps, le cerveau va être capable de compenser. Il va se débrouiller. Il y a énormément de connexions, il y a énormément de circuits dans le cerveau qui sont redondants. Il y en a plein, il y en a 3-4 qui font à peu près la même chose. Eh bien, s'il y en a un qui disparaît, il y en a deux autres qui vont prendre le relais. Ça sera possible un certain temps. Mais au bout de ces années, on va accumuler trop de protéines dans notre cerveau, il y aura trop de circuits défectueux, et les symptômes vont apparaître. Donc vous voyez sur ce schéma, vous commencez de normal, vous avez ensuite préclinical. Donc entre normal et fin de préclinical, il se déroule 5, 10, 15 ans. Vous voyez la protéine bêta-amyloïde, c'est la courbe rouge, va progressivement s'accumuler dans le cerveau. Mais on n'aura pas d'altération. Des fonctions cognitives. Troubles cognitifs, vous voyez, c'est l'avant-dernière courbe, vous voyez que ça bouge quasiment pas pendant la forme préclinique. Donc, on ne s'en rend pas compte. On n'a pas de difficulté avec sa mémoire. Il n'y a rien qui se passe. En tout cas, aujourd'hui, on n'est pas capable de détecter ces signaux faibles. On travaille dessus. Le professeur Anne-Marie Hergis travaille dessus. Beaucoup de gens travaillent dessus pour essayer de repérer ces signaux faibles qui permettent de savoir si on est ou non porteur de ces protéines anormales. Et puis ensuite, au bout d'un certain temps, quand on a trop de protéines bêta-amyloïdes et que les fonctions synaptiques sont altérées, ces connexions entre les neurones sont altérées, on arrive dans ce qu'on appelle, vous voyez, MCI. C'est la traduction anglaise de mild cognitive impairment. Ça veut dire, nous, on appelle ça en français la phase prodromique, c'est-à-dire qu'on commence à avoir des petites difficultés. Mais on a un peu de mal à savoir, au fond, si ce sont des difficultés qui sont liées au vieillissement, un peu accéléré, ou si c'est le début de la maladie d'Alzheimer. J'oublie mes clés, je ne sais plus très bien où j'ai garé ma voiture, j'ai des problèmes avec les noms propres. toujours le mot sur le bout de la langue. J'ai vu un film hier avec un acteur, mais bon sang, comment il s'appelle, je ne sais plus. Puis 10 minutes, 1 heure plus tard, je m'en souviens. Ça nous arrive tous. Hein, passé 50, 55 ans, on a tous ces petites difficultés. Donc ça, c'est dans cette période-là, MCI, la phase prodromique, où ça commence par des petits troubles, mais les troubles s'accumulent. C'est-à-dire que, eh bien, on oublie les clés, mais ensuite on oublie le numéro de la carte de crédit, et puis on multiplie les oublis de rendez-vous, on a de plus en plus de mal à retenir les noms, etc., etc. Et là, clairement, on sort de la zone où on peut croire qu'on est devant un vieillissement physiologique, et on arrive dans la maladie d'Alzheimer, vous voyez, le stade dementia. Donc vous comprenez ce qui se passe aujourd'hui. Et aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi, à un moment donné, cette courbe rouge bêta-amyloïde décolle. Le début de la maladie, on ne sait pas pourquoi ça décolle. On le sait dans les formes familiales, génétiques, dont on a parlé tout à l'heure, mais pour les formes dites sporadiques, on ne sait pas pourquoi tout d'un coup ça décolle chez les uns et pas chez les autres. Mais ce que l'on sait faire assez bien, et c'est de ça dont je vais vous parler maintenant, c'est faire en sorte que cette phase entre le normal et le MCI dure le plus longtemps possible. C'est pour ça que quand je vous disais qu'on peut, si on repousse de 5 ans, on diminue de moitié le nombre de malades, c'est que si on déplace cette barre en pointillé qui sépare préclinical de MCI de 5 ans, les gens vont encore avoir 5 ans de bonne vie et puis ils pourront mourir avant que ça se déclenche. Et ça peut même être plus si on a une pratique préventive de qualité. Donc c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est comment faire en sorte que notre cerveau puisse se défendre le mieux possible et le plus longtemps possible contre justement cette accumulation de protéines bêta-amyloïdes qui finit par détruire les neurones. Quand on arrive à peu près à la phase MCI, on a déjà les hippocampes qui sont très réduits, à peu près de moitié, c'est-à-dire que la moitié des cellules contenues dans l'hippocampe sont détruites. Donc on comprend à quel point c'est compliqué de traiter des gens à ce stade-là. Et mon collègue va nous parler tout à l'heure de justement la recherche et qu'est-ce qu'on va essayer de faire pour traiter avant que cette période n'apparaisse. Hein. Rémi Genton va vous expliquer un peu où en est la recherche dans ce domaine. Diapo suivante. Donc, en termes de prévention, il y a deux types de prévention, la prévention primaire et secondaire. Pour que les choses soient claires, je vais vous parler d'une angine. L'angine, c'est une bactérie, c'est un streptocoque qui vient s'installer dans les amygdales. La prévention primaire, c'est éviter que le streptocoque ne s'installe. La prévention secondaire, c'est soigner le streptocoque pour que l'angine ne se développe pas trop et ne devienne pas ensuite un vrai problème grave pour la santé. D'accord ? Nous, c'est la même histoire. La prévention primaire, on ne sait pas encore très bien comment la faire, puisqu'on ne sait pas qu'est-ce qui est à l'origine de la maladie. Mais en revanche, on va vous proposer la prévention secondaire. Comment, dès lors qu'on est porteur de cette protéine bêta-amyloïde, repousser le plus loin possible l'apparition des symptômes. Diapo suivante. Bon, je l'ai expliqué. Diapo suivante. Alors, on va essayer déjà de voir quels sont les facteurs de risque. Alors là, je vais vous parler de facteurs de risque qui sont un peu désespérants parce qu'il n'y a rien à faire dessus. Mais il faut les comprendre. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, la maladie d'Alzheimer se développe à toute vitesse. Parce que même si à âge constant, on a moins la maladie d'Alzheimer que nos parents ou nos grands-parents, comme il y a de plus en plus de gens éligibles à ces âges élevés, 80, 85, 90, le nombre total va croître inexorablement. Et je voudrais apporter une petite précision, parce que je suis sûr que c'est dans l'esprit de beaucoup d'entre vous. Quelle est la différence entre démence sénile, sénilité, et maladie d'Alzheimer? C'est pareil. D'accord? C'est pareil. Pendant très longtemps, on séparait les deux. On disait Alzheimer avant 65 ans, démence sénile après. Aujourd'hui, que vous ayez 51 ans ou 94 ans, on va parler de maladie d'Alzheimer. On ne parle plus de démence sénile. D'accord? Donc, premier facteur de risque, le plus important, c'est l'âge. Bon. Deuxième facteur de risque, les facteurs génétiques. Là aussi, pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'effectivement, voilà, si on a quelqu'un de sa famille atteint, on augmente un peu le risque. Mais pas de manière systématique. Ce n'est pas une maladie héréditaire. Le plus souvent, ça n'est pas une maladie héréditaire. D'accord ? Si le risque augmente un peu, c'est parce que les facteurs génétiques sont des facteurs de prédisposition. Nous finançons, par exemple, un programme de recherche très brillant à Lille, qui est un généticien qui a découvert, il a fait un papier qui a fait le tour du globe, il a découvert 74 gènes impliqués dans la maladie d'Alzheimer. Donc ces gènes sont des facteurs de prédisposition. À eux seuls, ils ne donnent pas Alzheimer, mais associés à d'autres facteurs, on va les voir, ils peuvent donner Alzheimer. Par exemple, l'hypertension artérielle, par exemple le diabète. Vous avez ce gène et vous n'avez pas de diabète, vous n'aurez pas la maladie d'Alzheimer. Mais en revanche, si vous avez ce gène plus le diabète, là, vous avez un risque de la déclencher. Vous voyez, donc c'est des gènes qui prédisposent dès lors qu'il y a d'autres facteurs associés. C'est un peu comme un quintet perdant. Vous avez cinq, on va dire, causes. Vous avez cinq facteurs. Dans l'ordre, vous êtes sûr d'avoir l'Alzheimer et à 65 ans. Vous avez cinq dans le désordre, vous l'aurez à 90 ans. Vous avez trois facteurs très importants qui sont dans l'ordre, vous l'aurez peut-être à 80 ans. Et si vous l'avez dans le désordre, vous l'aurez pas du tout. Vous voyez, donc, c'est ce qui rend très compliqué la compréhension d'Alzheimer. C'est pour ça que aujourd'hui, on ne sait toujours pas pourquoi ça se déclenche chez les uns et pas chez les autres. Maladie plurifactorielle, donc il faut essayer d'analyser. Et aujourd'hui, avec les machines qui permettent d'étudier des milliards de facteurs en même temps, eh bien, on va pouvoir probablement, petit à petit, comprendre un petit peu mieux qu'est-ce qui se passe et pourquoi certaines personnes sont plus à risque que d'autres. Diapositive suivante. Autre facteur de risque, le sexe. Il y a plus de femmes atteintes que d'hommes. Parce que probablement sur le chromosome X, il se passe quelque chose qu'on n'a pas tout à fait identifié encore, sans doute lié aux hormones qui sont carencées, vous savez, au moment de la ménopause. On en parlera si on a le temps. Et maintenant, diapo suivante, petite chose à entendre aussi, c'est qu'il y a des gènes qui sont des facteurs de risque, mais d'autres qui sont protecteurs. C'est aussi une bonne nouvelle, il faut le savoir. Diapo suivante. Et là, maintenant, on va rentrer dans les comportements. C'est-à-dire, là, les choses où on va devenir acteur de la prévention de la maladie d'Alzheimer. L'âge, le sexe, la génétique, on ne peut rien faire. En revanche, là, je vais vous proposer des comportements qui sont utiles pour prévenir la maladie d'Alzheimer. Diapo suivante. Et on va voir que ces comportements, ça commence très tôt. J'ai souvent tendance à dire, pour frapper un peu l'imagination, que la maladie d'Alzheimer, la prévention commence dès le jardin d'enfant. Pourquoi ? Parce qu'entre un enfant qui va savoir lire et écrire correctement, qui pourra ensuite faire des études supérieures et un métier stimulant intellectuellement et valorisant, et un autre qui ne pourra pas faire ces mêmes études, qui sera contraint de faire un travail plus manuel, moins stimulant, eh bien, le premier aura une réserve cognitive, maintenant vous connaissez ce terme, plus importante que le second. Et la réserve cognitive, c'est au fond comme un compte en banque. Vous savez tout ce que c'est que d'avoir un compte en banque avec un prélèvement automatique qui prélève inexorablement sur le compte une certaine somme. Plus le compte est important, plus le temps qui va s'écouler avant que le banquier vous appelle en vous disant « Vous êtes dans le rouge, il va falloir remettre un peu dans le compte », va prendre du temps. Eh bien, c'est la même chose avec la prévention. Plus la réserve cognitive est importante, plus le temps entre le début de la courbe et le moment où s'installent les MCI, vous vous souvenez, va être important. Donc il faut développer cette réserve cognitive. Et la réserve cognitive, on la développe dès l'enfance. Qui dit réserve cognitive dit curiosité, dit soif d'apprendre, dit compétences intellectuelles qui permettent de développer donc la réserve cognitive. Il est clair que si on a un faible niveau d'éducation et un niveau socio-économique défavorisé, c'est plus compliqué. Ensuite, diapo suivante. On voit que à la vie adulte, on a des facteurs de risque qui là s'installent et dont on va payer le prix. Quand on est jeune, on peut corriger. Mais à partir de 50-60 ans, les erreurs de comportement, on paye le prix cash à un moment donné. L'hypertension artérielle, le diabète, l'hypercholestérolémie, la sédentarité, j'appelle ça les bourreaux du cœur. C'est tout ce qui altère le réseau vasculaire. Notre cerveau est parcouru par des millions de vaisseaux qu'on ne voit pas à l'œil nu, qui apportent au cerveau tout ce dont il a besoin, l'oxygène, le glucose, les métabolites. Quand ce réseau n'est pas de bonne qualité, le cerveau souffre. Et là, c'est la réserve cérébrale qui ne marche pas bien, et donc, par ricochet, la réserve cognitive. Ensuite, la dépression, les traumas crâniens, les troubles du sommeil. Traumas crâniens, on sait qu'effectivement, les joueurs de foot, les joueurs de rugby, les boxeurs sont à risque. Mais bon, je pense que quand je regarde la salle, vous avez un peu dépassé le stade de faire du rugby et de la boxe. Donc ça va, vous êtes protégés. Après, les troubles du sommeil, par contre, ça c'est quelque chose qu'il faut entendre parce que quand on dort, eh bien non seulement on retraite les informations pour avoir une bonne mémoire, là pendant que vous allez dormir la nuit prochaine, vous allez retraiter tout ce qui s'est dit cet après-midi. Vous allez en garder une petite partie, pas tout, parce qu'il s'est dit beaucoup de choses, mais j'espère le plus important. Si votre hippocampe n'est pas en bon état, il va eh bien, discriminer de mauvaises, sans bonne qualité eh bien, ces informations, il va en jeter beaucoup. Mais si on dort bien, eh bien, ça sera mieux, on aura une meilleure rétention des informations. Mais pendant la nuit aussi, le cerveau, eh bien, il élimine les toxiques. Et donc, les fameuses protéines bêta-amyloïdes sont mieux éliminées quand on dort mieux. Donc, il faut avoir un bon sommeil. Les facteurs protecteurs, ben, c'est un peu l'inverse des facteurs de risque. Ensuite, on va passer à un âge un petit peu plus avancé. Après 60 ans.
Je m'excuse, je vous demandais d'accélérer un petit peu. On a pris du retard.
D'accord, très bien. Alors, je vais accélérer. J'ai déjà parlé des bourreaux du cœur. Vous voyez que c'est un petit peu la même chose. J'aimerais insister sur peut-être deux, trois petites choses importantes. La surdité. Vous savez, il y a un adage qui dit « L'amour rend aveugle et la vie conjugale rend sourd ». Alors, il est vrai qu'avec l'âge, on a tendance, et surtout les hommes, à être un petit peu dur de la feuille. Ils ont un peu de mal à accepter ça. Ils disent « Oui, demain, on va se faire appareiller. » Bon, ben non, il faut le faire le plus tôt possible. Parce que quand on est sourd ou quand on entend mal, on s'isole, on se déprime, et surtout, eh bien, la réserve cognitive en prend un coup. Elle est moins stimulée, d'accord ? Et donc, on se protège moins bien contre Alzheimer. Donc, attention à la surdité. Isolement social, facile à comprendre. Troubles du sommeil, j'en ai parlé. L'alimentation, ici, vous avez la chance d'avoir une alimentation qui est très riche en antioxydants. Les oméga-3, vous les trouverez dans les amandes, vous les trouverez dans les noix, vous les trouverez également dans l'huile d'olive. Regardez, vous verrez dans les livres. Hein, mais il faut faire attention à son alimentation, parce qu'encore une fois, c'est comme ça qu'on protège son cerveau, qui reste en bonne santé. Et puis, je finirai par deux choses indispensables. L'activité physique et l'activité mentale. Alors, pendant longtemps, on riait un petit peu de nos footballeurs, en disant, oui, ils sont très bons en foot, mais ils ont un peu de mal à réfléchir. Eh bien, il est vrai que l'activité physique, c'est non seulement bon pour le corps, mais c'est excellent pour le cerveau. Et que malheureusement, on est tous beaucoup trop sédentaires, surtout quand on avance en âge. Il faut faire du sport. C'est bon pour plein de choses. En réalité, ça permet de freiner le vieillissement, et notamment le vieillissement cérébral, et ça protège contre la maladie d'Alzheimer. Donc, halte à la sédentarité. Il faut bouger du matin au soir, pour essayer de se maintenir en forme. Idéalement, il faut faire 30 à 35 minutes de marche à pied d'un bon pas tous les jours. Mais si en plus on veut faire un peu de bicyclette, un peu de natation, un peu de ceci, un peu de cela, tout est bon à prendre. Je ne veux plus voir de gens qui attendent l'ascenseur pour descendre 2 étages. Ce n'est pas une bonne idée du tout pour la maladie d'Alzheimer, pour le cerveau en général. D'accord ? Donc, on fait de l'exercice tout le temps, c'est bon pour le cerveau. Et puis, l'activité mentale, c'est aussi très utile. Le cerveau ne s'use que si on ne s'en sert pas. Donc, il faut développer cette activité intellectuelle, les loisirs intellectuels. Madame Hergis en a parlé. Tout est bon à prendre. Il ne faut pas se cantonner à une activité. Il faut essayer d'en faire plusieurs, sortir de la routine. Le cerveau n'aime ni la routine ni la nuit. Donc, il faut s'occuper, quelle que soit l'activité. J'aime beaucoup le jardinage parce que ça stimule le cerveau, on fait de l'exercice en même temps et ça fait plaisir. D'accord ? Mais on peut jouer au bridge, on peut aller au cinéma, on peut parler avec ses petits-enfants, on peut voyager, j'en passe et des meilleurs. D'accord ? Activité physique et stimulation intellectuelle sont vraiment indispensables pour maintenir cette fameuse réserve cognitive en bon état. D'accord ? Voilà, dernière diapo. Voilà, d'abord je dirais que vous avez compris que finalement la bonne nouvelle, c'est que prévenir la maladie d'Alzheimer, c'est tout simplement se maintenir en bonne santé. Tout ce que je vous ai dit, il n'y a rien de sorcier. Mais c'est compliqué à faire au quotidien. Mais si vous arrivez à développer tout ça, vous freinerez l'apparition de la maladie d'Alzheimer si un jour, par malheur, ça doit vous arriver. Et vous pouvez gagner des années. On pense que ça peut diminuer de 30 à 40% le risque de développer une maladie d'Alzheimer. Donc je pense que ça en vaut vraiment la peine. Voilà, merci de votre attention.
Merci beaucoup, j'espère ne pas vous avoir trop brusqué, mais c'était super. Merci, on va faire une petite courte pause, mesdames et messieurs, restez avec nous. Je vous invite à aller voir les partenaires qui sont dans la salle, qui sont sur les stands derrière vous. Vous avez AG2R La Mondiale, France Alzheimer Guyane et le Jardin d'Ébène, ainsi que la Fondation Recherche Alzheimer. Voilà. En deuxième partie, on parlera